de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, bienvenue au Cinérama 30 minutes pour parler de cinéma et puis pour jouer au blind test sonore, 5 extraits à écouter et des titres de films à deviner. Et cette semaine, nous allons jouer avec la filmographie de Steven Soderbergh, car je vais vous parler du film de Christopher. Et puis mon deuxième film, eh bien, c'est Le Vertige de Quentin Dupieux. Quant à mes collègues, eh bien, on va tout de suite faire le tour. Sophia, tu as un film?
Oui Vincent, je vais vous parler d'une année italienne de Laura Samani.
Et puis toi Guillaume, un film et puis deux rattrapages.
Je vais vous parler de Scary Movie 6 et puis aussi un tout petit peu d'Obsession et de Colonie.
C'est Cinérama qui débute avec un homme qui persuade son ami que l'humanité entière vit dans une simulation bouleversant leur certitude. Nous parlons du dernier film de Quentin Dupieux.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Bruno.
Oui.
Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance.
Ok.
J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel.
Quentin Dupieux et la réalité, ça fait deux. Qu'on se souvienne de son premier film, Rubber, l'histoire de ce pneu qui fait exploser les têtes des humains. Dans Le Dain, un homme développe une obsession pour sa veste jusqu'à l'extrême. Dans Mandibule, deux zigotos veulent dresser une mouche géante pour faire des casses. On peut s'arrêter là, mais Dupieux, lui, poursuit ce filon. Alors, on aime ou pas Dupieux, moi, je l'aime, je l'adore même, déjà parce que c'est un inventeur de forme dans un cinéma qui bien souvent se cantonne à raconter une histoire. Le réalisateur va bien au-delà, exploitant autant le caractère de l'image que les capacités des comédiens, qu'on se souvienne de Dali, où l'identité est éclatée, Dali étant incarné par 6 acteurs différents. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que les comédiens veuillent tourner avec ce réalisateur hors norme. Pour Le Vertige, présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes, Dupieux a réuni Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Desmoustiers, 3 comédiens qui avaient déjà joué dans un film de Dupieux et à 3 reprises. Sauf que là, l'image de ces comédiens est transformée en image d'animation. Alors ce n'est pas leur visage et leur corps que l'on voit, mais une version numérique proche de ce qui pouvait se faire dans les jeux en basse résolution des années 2000, voire fin des années 90. Les mouvements des acteurs ont été enregistrés tout simplement avec un iPhone et un logiciel de capture de mouvement grand public. L'univers que nous propose Dupieux est d'emblée alors foireux pour le spectateur, il l'est aussi finalement pour un personnage, celui de Chabat, qui a découvert de nombreuses anomalies qu'il a scrupuleusement notées.
Tout est bidon, il n'y a rien de réel.
Ça c'est réel ou pas?
Non.
Bah si, ça vaut 8000 balles, c'est forcément réel quand même.
Si les personnages sont reconnaissables, l'animation volontairement moche les transforme donc en habitants d'un monde numérique bourré de défauts. Le personnage donc de Chabat, qui s'appelle Jackie, n'a aucun mal à montrer à celui de Cohen, Bruno, combien ce monde eh bien, est parfaitement déroutant avec ses oiseaux qui font du surplace, ses boulangères à 6 doigts ou encore ses accouchements qui durent 2 minutes.
J'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent, voilà.
Franchement, je vais être honnête, hein. Ça me chie la tête, ton truc, là.
Oh là! Ah merde! Oh là là, ça y est, je perds les os.
T'es sûr?
Bah, tu vois bien. Ah, c'est une fille en plus!
Attends, ça y est, on est parents, là?
Là, t'as rien vu de bizarre?
Bah, c'est pas bizarre, elle a accouché, quoi, c'est la nature.
Oui, en 2 minutes. Les deux hommes vont se lancer dans des investigations pour tenter donc de décrypter le monde dans lequel ils vivent. Ainsi, avec ces personnages qui en rencontrent d'autres, nous voyons les failles de ce monde numérique et convenons qu'il s'agit d'une vaste farce. Hein. L'identité visuelle sert le propos, nourrie par des situations et des dialogues percutants. On passe un très bon moment finalement dans cet univers loufoque et absurde qui nous emmène jusqu'à 1h07. Dupieux a également cette qualité hein, de ne pas vouloir en rajouter pour faire du nombre. On lui en sait gré. D'ailleurs, le film se termine par une pichenette amusante qui confirme qu'on avait bien raison de rester accroché à ce monde bancal.
Tu captes pas le concept de simulation, je vois bien.
Non mais si, bien sûr que si, que je capte, ça va, oh, c'est bon, hein, tout est réel, je suis pas débile.
Non, rien n'est réel.
Je te le dis, tu vas être une maman exceptionnelle, j'en suis certain, tu commences hyper bien.
C'est vrai.
100%.
Alors, c'est pas le film le plus abouti ou le plus intéressant de Dupieux, hein, car les ficelles sont parfois un peu trop grosses. Mais pour ceux qui apprécient l'univers et la manière de fabriquer des images du réalisateur français, eh bien, ils peuvent évidemment foncer. Ceux qui ne laissent aucune place à la fantaisie et à l'absurde seront clairement agacés par un film qui n'a rien d'autre à proposer que l'amusement et une certaine habileté à le faire tenir debout. Alors, il est plusieurs fois fait référence, évidemment, à Matrix, hein, puisque quand on vit dans un monde virtuel et qu'on en a conscience, on pense tout de suite à ce personnage de Neo des sœurs Wachowski. Ce film, très étonnant et très court, hein, de Quentin Dupieux, Le Vertige, est en salle depuis le 10 juin. 26 ans après avoir échappé à un tueur masqué, et là on change d'univers, et bien les survivants se retrouvent de nouveau dans sa ligne de mire. Nous parlons de Scary Movie.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Il y a une convention dans l'art qui est immuable. Lorsqu'un genre en vient à être parodié, c'est qu'il est en bout de course. Il a eu le temps de connaître d'immenses succès, d'impacter le public et son époque, au point d'en devenir un marqueur culturel et d'être repris et copié ad nauseam jusqu'à ce que le public s'en lasse. La dernière étape avant les premiers beats du genre est précisément celle de la parodie, un genre de la comédie pas si évident que ça à maîtriser, car elle nécessite de bien connaître les codes des films détournés et d'en jouer avec les attentes spécifiques du spectateur, tout en essayant de raconter une histoire plus ou moins originale, mais calquée sur un classique du genre. En 2000, c'est précisément ce qui avait fait de Scary Movie un immense succès, dans la foulée de la naissance de ce qu'on va appeler le néo-slasher avec Scream en 96. Scary Movie va engendrer 5 suites au succès et à la réussite artistique diverse et variée, et à l'instar de Scream 7 qui a cartonné quelques mois plus tôt, revient en 2026. Mais que reste-t-il de nos amours des années 2000, dans une décennie marquée par le changement ?
Oh, fais chier.
Back again.
Oh non, elle s'est fait poignarder.
Pourquoi elle d'abord? Les pronoms inclusifs, ça vous dit rien? C'est Yael, s'est fait poignarder.
Alors le changement, c'est précisément le cheval de bataille de Scary Movie, le changement d'époque, mais aussi la volonté de discuter, voire de contrer certains changements de notre temps, culturels et sociaux. Mais à l'image de son titre, on va voir que cette idée de changement et de surplace est assez hypocrite, car le titre ne nous aura pas trompé. S'il s'appelle officiellement Scary Movie, c'est bien Scary Movie 6 auquel on a affaire. Un peu comme Scream 6 avait tenté le coup avec un trompeur Scream en 2022, ou encore Halloween de 2018, qui était en fait Halloween 9 ou un Halloween 3 alternatif dans une tentative d'effacer certaines suites. Et comme par hasard, ce sont des films qui sont repris activement dans ce Scary Movie et qui servent même de colonne vertébrale à l'ensemble. Alors malheureusement, c'était pas l'idée du siècle, car l'un des codes de la parodie est de copier un film récent. Get Out de Jordan Peele à 10 ans, Halloween de David Gordon Green à 8 ans et d'autres emprunts ici et là à Long Legs ou Évanoui sont tellement succincts qu'ils n'ont aucune importance. Et c'est là qu'on en arrive au fond réel du film. On parlait de parodie de genre, mais Scary Movie 6 se pose plus comme la parodie d'une époque. Il y a bien évidemment un semblant de trame qui regroupe plusieurs œuvres plus ou moins récentes qui sont détournées, comme on l'a dit, mais le maître mot derrière ces détournements est guidé par la volonté première de donner un coup de pied dans la fourmilière.
Nous revoilà!
Il y a un tueur en série dans la nature.
Bonsoir, Mardi.
Ça fait longtemps que je me prépare pour ce moment.
Bonjour, maman. T'as une sale gueule.
Cindy? On fait un câlin?
J'aimerais beaucoup, mais je suis devenue républicaine, du coup je devrais être raciste.
Oh, ma fille, je crois que tous les blancs sont racistes de toute façon, allez!
Bon, d'accord.
Scary Movie 6 ne s'intéresse en fait quasiment pas au cinéma, et c'est pour ça que je m'attarde pas plus que ça sur l'intrigue, qui voit grosso modo les personnages un temps soit peu emblématiques des deux premiers films revenir. Alors le film s'attarde plus à vouloir choquer le puritanisme de notre époque, et même si c'est profondément raté, c'est pile là que cette affaire devient passionnante, parce qu'il y avait quelque chose de génial à faire en miroir déformant de notre époque étonnante, paradoxalement coincée entre libération totale de la parole et censure à la puribonderie contre-productive. Les frères Wayans, troublions du petit et grand écran américain depuis presque 40 ans, avait un boulevard pour commenter notre époque, mais ils échouent car ils substituent l'analyse satirique mordante à un humour de bas étage, certes propre aux deux premiers Scary Movie, mais ici totalement contre-productif. Alors si on comprend ce qu'ils veulent dénoncer, une certaine vulgarité ou le fameux bon mauvais goût dont John Waters s'est rendu maître, qui a su faire tout le sel critique de la société dans les œuvres de Trey Parker et Matt Stone, ici il tue toute pertinence. Et c'est très frustrant parce que 2026 avait besoin d'un film grand public et populaire vraiment sauvage pour secouer le cocotier de l'audiovisuel mondial.
Salutations, on a entendu parler d'une petite fête d'Halloween. On vient boire, jouer de la musique pourrie et faire des trucs à moitié gays.
Pourquoi qu'à moitié gay ?
C'est pourtant ça qui fait l'importance de la comédie, hein. Son analyse et son empreinte sur le temps. Hein. Une bonne comédie est une radiographie de la société de son époque, comme l'a théorisé Molière, hein, et permet d'en commenter ses travers. Malheureusement, hein, Michael Tiedes, hein, réalisateur attitré des derniers mauvais forfaits des frères Wayans, bah, passe plus de temps à s'embourber sur un aspect méta qui commente autant l'historique pas intéressant de la saga Scary Movie que ce qu'elle parodie véritablement. Alors on en vient donc à avoir une charge contre les suites non gérées à l'époque par les Wayans et une reprise 30 ans plus tard, du remake de Scream pour épouser, hein, ce qui était dénoncé dans ce qu'on appelle désormais les Legacy Quels. Alors, sur le point de vue parodique, hein, on ne pouvait peut-être pas trop les blâmer. Hein, les derniers Scream et Halloween étaient déjà de mauvaises blagues. Alors, comment un nouveau Scary Movie pouvait-il être drôle ? Mission impossible, même pour Tom Cruise.
Oui, bah, donc Scary Movie est en salle actuellement. Un ancien peintre du pop art retiré du monde voit ses enfants engager une faussaire pour terminer en secret une série de toiles inachevées. Nous parlons de The Christophers de Steven Soderbergh.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Avec Présence, film d'épouvante ou plutôt thriller de l'intime, remarquable dans son fond comme dans sa forme, puis le thriller d'espionnage de Insider, Steven Soderbergh se lance maintenant dans un autre registre, une comédie dramatique ou plutôt intimiste, là encore, hein, qui met aux prises deux personnages. D'un côté, il y a Julian Sklar, un vieux peintre qui n'a plus produit grand-chose depuis longtemps et qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70. Et puis de l'autre, Laurie Butler, une jeune restauratrice et ex-faussaire qui va devenir son assistante. Alors pourquoi elle ? Eh bien parce que les enfants du peintre la lui ont mise dans les pattes. Ils veulent qu'elle achève en secret une série de 8 toiles inachevées stockées au 3e étage de la maison, les Christophers. Une fois terminées, ces œuvres vaudront évidemment une fortune.
Other door.
You said this was a restoration job. It's a forgery job.
Think of this as a way to get revenge.
Les deux personnages sont très différents. Lors de leur première confrontation, on voit le peintre déverser sa misanthropie, son inconfort vis-à-vis du monde de l'art et du monde tout court, dans un flot proche de la diarrhée verbale, faisant les questions et les réponses, restant persuadé de son aura pourtant ternie. Si l'on aperçoit des images anciennes de lui participant à une émission de télévision où il distribue les bonnes mais surtout les mauvaises notes, hein, à de jeunes peintres, il n'est désormais plus écouté. Il semble davantage ressassé, scrutant le web à la recherche de son propre reflet. L'interprétation de Ian McKellen, qui a incarné Gandalf et Magneto, mais qui est avant tout un homme de théâtre, est vraiment alors impeccable avec ce ton très anglais, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans ce court extrait. Quant à la faussaire présumée, son attitude est beaucoup moins évidente, hein, elle cache quelque chose avant de tout avouer, jouant un double jeu avec les enfants du peintre. Alors on ne sait jamais exactement où elle se situe, à la fin du film, on sera mieux renseigné.
Then bring me the evidence.
It's not that I don't trust you, Laurie.
It's just that I don't trust you.
Le film repose largement sur les séquences entre le peintre et son assistante, que la mise en scène vient souligner, à grands traits de caméra à l'épaule et de plans contrastés. Il y a par exemple le peintre dans l'ombre, l'assistante dans la lumière, dans la simplicité d'un contre-champ. Soderbergh est un grand faiseur d'images, comparable à Spielberg, à mon sens, hein, c'est la famille des Berg, voilà. Mais il sait aussi par moments poser sa caméra pour que le spectateur se concentre sur les propos. L'enjeu de cette relation, eh bien, chacun doit faire surgir les vérités qu'il a enfouies.
That's where the art of it comes in.
Alors on entend une réaction et il réagit à cette phrase, c'est là que l'art intervient, je suppose. Le film pose d'innombrables questions. Qu'est-ce que l'art ? Que faire lorsque survient la fameuse perte d'inspiration ? Lorsque le feu sacré s'éteint ? Que devient-on quand son œuvre perd de sa valeur ? Et cette valeur même d'une œuvre, que signifie-t-elle ? L'exemple est donné d'un millionnaire de la tech qui achète des œuvres pour réduire ses impôts. Derrière cela, il y a évidemment le poids de l'âge. Soderbergh a choisi un peintre âgé. Alors certes, le réalisateur n'a que 63 ans, mais lui aussi, il s'en est jamais vraiment caché. Hein. Il est nourri d'une peur de l'abandon, celle de ne plus trouver de spectateurs ou même de ne plus avoir d'idées de films. On se souvient qu'il avait d'ailleurs annoncé en 2013 vouloir arrêter le cinéma après Effet secondaire. Il fustigeait alors Hollywood et son manque d'intérêt pour la chose artistique. Le voilà désormais installé à Londres. Je crois que ça fait 4 ans qu'il est là-bas, dans une logique de production indépendante. Lui qui a longtemps su alterner blockbusters et films fauchés de Christopher's véhicule, eh bien là, une douceur, une poésie, une attention vraiment remarquable, interrogeant autant ce qui anime les artistes que les êtres humains eux-mêmes. Autant vous dire que c'est un film que je vous conseille, de Christopher, qui nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie du réalisateur américain qui a fait 33 longs métrages. Autant dire qu'il ne s'est pas beaucoup arrêté hein, depuis son grand succès. C'était la Palme d'Or à Cannes, Sexe, Mensonges et Vidéos. Je crois qu'il avait 26 ans et c'est là qu'il s'est dit finalement, si je commence comme ça, comment je vais terminer ? Voilà. Donc on écoute 5 extraits et le premier est facile.
Qu'est-ce que vous avez contre Terry Benedict ?
Qu'est-ce que toi tu as contre lui ? Voilà la question.
Il a torpillé mon casino. Il m'a éjecté. Et il doit le faire sauter le mois prochain pour le remplacer par Dieu sait quelle monstruosité. Je sais très bien ce que vous comptez faire.
Ah ouais ? Et qu'est-ce qu'on compte faire ?
Quand on décide de braquer Terry Benedict, il vaut mieux savoir ce genre de choses. Il fut un temps où on était plus civilisé. On volait un gars, il vous réglait votre compte, mais avec Benedict. Quand ce sera réglé, l'important c'est qu'il ignore votre nom et votre implication. Il faut qu'il pense que vous êtes mort, ou bien il vous tuera, et ensuite il vous démolira la gueule.
C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très prudent, très précis.
Et très sponsorisé.
Oui. Et il faut que vous soyez barjot.
Alors c'est évidemment trouvé, c'était facile.
Oui, c'était Ocean's Eleven.
Oui, film de 2001, c'est le grand succès de Steven Soderbergh. 4,6 millions d'entrées en France. Fraîchement sorti de prison, Danny Ocean réunit une équipe de spécialistes pour réaliser le casse le plus audacieux de Las Vegas. Leur cible, 3 casinos contrôlés par un redoutable homme d'affaires. Et dans ce film, Brad Pitt n'arrête pas de manger. C'est un film d'une remarquable mécanique. Deuxième extrait, et là on change de genre.
Et si les événements actuels se reproduisaient sur Terre à l'échelle planétaire? Quoi, ça vous tracasse pas plus que ça? C'est une grossière erreur de postuler que cette chose est bienveillante. Si ça se trouve, elle nous pousse à la psychose pour qu'on s'entretue.
Vous croyez vraiment que c'est leur objectif? Cette chose a eu les moyens de faire tout ce qu'elle voulait, y compris nous détruire.
Soyez au labo dans une heure.
Je ne vous laisserai pas faire.
Et comment vous nous arrêterez?
Et comment vous m'empêcherez de la ramener?
Est-ce que vous voulez qu'on ramasse l'autre en chemin? Ça sera pas difficile. On calcule sa trajectoire, il y en a pour quoi? Une journée?
Alors, trouvé.
C'est Solaris.
Eh oui, c'est un remake de Tarkovsky, effectivement. Ouais. Vous voyez, sur une station spatiale en crise, un psychologue découvre que les membres de l'équipage sont tentés par des apparitions venues de leur passé, une exploration intime du deuil, de la mémoire et de l'amour, avec encore George Clooney, qui est un des acteurs fétiches de Steven Soderbergh. Allez, nouvel extrait de ce blind test, nous cherchons un film du réalisateur américain.
Hé, hey. Elle en a vraiment bavé, tu sais.
Oh, ça va. Elle est du genre à pas trop kiffer la réalité, de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle se fait des films et ça marche. La preuve, tu fais attention à elle. Elle s'invente des trucs chelous, donc elle les voit. C'est aussi simple que ça.
Elle les connaissait toutes les deux. Les filles qui sont mortes.
Je croyais qu'il y avait que Nadia.
Non, l'autre aussi. Moins que Nadia, mais ça compte.
Oh putain, les connes se foutent des saloperies dans le corps.
Ok.
Ni poudre, ni médoc. C'est naturel,
okay,
ça va.
Ok, c'est
ça,
bon, je vais me coucher.
Fais-la pisser dans un gobelet.
Hé, je connais mon boulot.
Mais alors papa, fais-le si tu le connais. Moi je te dis qu'elle est tarée, Chloé, avec ou sans copine morte.
Il y a un homme formidable au fond de toi, Tyler. J'aimerais le rencontrer bientôt.
Alors, cette dernière... Je trouve ce personnage vraiment formidable. Il se trouve que c'est un film plutôt fantastique d'épouvante. Et là, il y a le personnage du père là, qui dit ça à son fils.
Ah, c'est peut-être présent, ça.
Oui. Oui.
Assez récent, l'année dernière, c'est
ça ? Oui, 2024, ouais. Effectivement. Une famille emménage dans une maison où une présence mystérieuse semble observer chacun des faits et gestes. Donc c'est un thriller fantastique raconté du point de vue de l'entité elle-même avec la caméra qui bouge énormément, mais c'est pas seulement un film de genre, il y a vraiment ce personnage du père qui est vraiment super bien écrit. Autant dire que c'est un film là encore que je vous recommande, il y avait que 140 000 entrées en France. Allez, nouvel extrait.
Et au cours des 6 derniers mois, vos chiffres ont triplé.
Le chiffre de saisie, oui, c'est ça.
Des saisies de drogue, ce qui veut dire qu'en proportion, il y a 3 fois plus de drogue qui a réussi à entrer.
Oui, je sais que le chiffre est effrayant, mais je pense que c'est ça. Sincèrement, je préférerais vous annoncer que nous en sommes à 60 ou 70% de saisies, mais la vérité est plus proche de 40 ou 50% du total qui transite par ici. Et ce sont des sommes colossales qui sont en jeu. C'est pour ça qu'on assiste à tous ces meurtres et à tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a une organisation qui en combat une autre. Quand tout se passe bien, ils ne s'entretuent pas. C'est quand ça va mal, que c'est plus difficile pour eux, qu'ils perdent de la marchandise et que des chauffeurs sont arrêtés. C'est là qu'il y a des meurtres. C'est aussi simple que ça.
C'est trouvé.
C'est Trafic ?
Eh oui, film de 2000 avec Michael Douglas dont on écoutait la version française. Il y a aussi Benicio Del Toro et Catherine Zeta-Jones. À travers plusieurs destins croisés, le film explore les ravages du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Un thriller choral qui montre les limites de la guerre contre les narcotrafiquants. C'était un succès plutôt modéré, mais quand même, enfin, quasiment 2 millions d'entrées en France. Et puis surtout 4 Oscars, dont le meilleur réalisateur pour cette année-là. Dernier extrait.
Tout ce qu'on veut, c'est que tu fasses exploser le bazar.
Ouais, sauf que j'ai encore 5 mois à tirer dans cette tôle. Alors j'ai plutôt intérêt à me faire tout petit avant de reprendre du service.
Nous, faut que ça se passe dans 5 semaines.
Je suis incarcéré.
Ouais, mais on a un plan pour te faire sortir.
Tu veux dire, pour me désincarcérer?
Ouais.
En pleine nuit?
Non, l'après-midi. Le job doit se faire en journée.
Vous allez me faire sortir d'ici en pleine journée. Je fais le job et vous allez me ramener ici avant même qu'on s'en aperçoive.
Ouais.
Steven Soderbergh s'est alterné donc les gros films, les petits films, les gros castings, les petits castings. Là, c'était un gros casting dans cette scène. Il y avait Channing Tatum, Adam Driver et Daniel Craig.
Je crois que c'est Logan Lucky.
Oui, tout à fait. Film de 2017. Deux frères aux multiples déboires préparent le braquage d'un circuit automobile pendant une course NASCAR, une comédie criminelle décalée où rien ne se passe exactement comme prévu. 330 000 entrées en France pour ce film vraiment jouissif. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. De toute façon, j'adore ce réalisateur, Steven Soderbergh. C'était le Blind Test. En 2007, à Trieste, une lycéenne suédoise découvre une nouvelle vie et des amitiés qui vont bouleverser son adolescence. Nous parlons d'une année italienne.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Si vous avez vu Piccolo Corpo en 2021, vous vous en souvenez probablement. Un film exigeant, austère, tourné en dialecte frioulant dans les montagnes du nord de l'Italie, qui suivait une mère cherchant à baptiser son bébé mort-né. Un geste de cinéma à la fois brutal et poétique, adoré par la critique. Celles et ceux qui l'ont vu et aimé penseront peut-être s'être trompés de salle en découvrant Une année italienne, son deuxième long métrage. Et Yael n'aurait pas tout à fait tort, hein. Le film a été présenté à la Mostra de Venise 2025 dans la section Horizonti, il a ensuite circulé à Busan, Zurich, Séville, avant de décrocher une mention spéciale à Cannes, écran junior, section destinée aux 13-19 ans. Ce dernier détail mérite d'être retenu, il dit quelque chose sur la façon dont distributeurs et programmateurs hein, lisent ce film. Un film pour adolescents qu'on ne viendra pas trop brusquer. Le scénario est co-signé avec Elisa Dondi et adapte librement Un anno di scuola, un roman de Gianni Stuparic, écrit en 1929, que Samani, la cinéaste, a découvert lors de sa propre terminale au lycée de Trieste et qui s'est immédiatement reconnue dans son héroïne. Samani transpose hein, l'histoire à 2007, son année de bac, juste avant l'installation massive des réseaux sociaux hein, dans les sociabilités adolescentes. Un film intime, autobiographique presque, ce qui rend ses angles morts d'autant plus dommageables.
Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire d'essersi trasferita.
Septembre 2007, Fred, jeune suédoise de 17 ans, emménage à Trieste et commence une année de terminale au lycée technique de la ville. Seule fille de sa classe, elle se retrouve au centre de l'attention de tout le monde, mais surtout d'un trio inséparable de garçons. Antero, le réservé plutôt bon élève, Pasini, le séducteur, Mitis, le protecteur. Trois façons différentes de désirer et une seule façon d'être désiré. Pour être acceptée, Fred doit petit à petit sacrifier une part d'elle-même, cherchant une validation dans cet univers très masculin où elle subit dès les premiers jours des humiliations que l'équipe éducative minimise. Le tout dans une Trieste frontière où s'entrelacent les cultures méditerranéennes, slaves et germaniques, avec son vent violent, son air mélancolique, une ville qui est aussi dans le film un personnage à part entière, un espace de passage, de tension entre deux mondes qui résonne hein, avec la situation de Fred elle-même, étrangère à tout. Commençons par ce qui fonctionne vraiment, l'image. La chef opératrice Inès Tabarin signe une photographie aux teintes chaudes avec un grain vintage, des ellipses enlevées qui donnent au film quelque chose, que de la mémoire fragile hein, qui est en train de se constituer. C'est beau, c'est juste, ça porte bien le récit, parfois bien mieux que le scénario lui-même. La bande-son aussi hein, fait bien le boulot, le morceau Pioniente de Prozac Plus, avec son énergie pop-punk typique de la fin des années 90, accompagne parfaitement cette chronique adolescente. Mais c'est justement là que le bas commence à blesser. Cette légèreté musicale de surface rend encore plus troublant que rien de vraiment grave ne soit jamais directement affronté dans le récit. Parce que le problème du film commence à sa source. Le roman de Stuparik, paru en 1929, se déroule dans la Trieste du début du XXe siècle, à l'époque où les études supérieures s'ouvraient aux femmes. L'héroïne originale, Eda, était une pionnière. Sa présence dans cette classe masculine constituait déjà une transgression. Et en transposant l'histoire à 2007, sa manie efface précisément ce qui faisait la puissance subversive du texte. Fred n'est plus qu'une fille étrangère dans une classe de garçons au sexisme ordinaire. Bon, rien de révolutionnaire donc. Étrangère donc mystérieuse, belle donc catalyseur, seule fille donc révélatrice des garçons. Cette cool girl traverse le film hein, comme une surface lumineuse, désirée, observée, sans qu'on accède vraiment à son intériorité, à elle. Le film se présente comme un récit d'apprentissage. Mais ce sont surtout les garçons qui grandissent, se révèlent et s'affrontent autour d'elle. La comparaison avec le premier long métrage de la cinéaste, Piccolo Corpo, en devient cruelle. Dans le premier, Samani filmait aussi une femme, seule, face à un monde hostile, mais avec une radicalité formelle et narrative qu'elle s'est ici entièrement refusée.
Madonna.
Une année italienne, c'est un beau cadre avec une toile un petit peu vide au milieu. Laura Samani avait sous la main un roman sur une vraie révolutionnaire. Elle en a fait le film d'une fille que tout le monde regarde. Eda méritait peut-être mieux, Fred aussi. Et nous également, on méritait peut-être de sortir de ce récit d'apprentissage en apprenant quelque chose.
Une année italienne, ce film est en salle depuis le 10 juin. Allez, on fait vite, on parle de deux films qui sont dans les salles depuis quelques semaines déjà.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Aujourd'hui, je m'apprête à réaliser une expérimentation. C'est plutôt un acte de terrorisme. Une renaissance.
Sang-Goyon s'est fait mondialement connaître par son film de zombies Dernier Train pour Busan. Il a persévéré avec Peninsula, qui a bien moins convaincu l'opinion, et malgré sa sélection en séance de minuit au Festival de Cannes, son petit dernier Colony continue la pente descendante critique. Ben, en ce qui me concerne, c'est l'exact inverse. Hein. Busan m'avait paru être une métaphore sociale poussive et peu inventive dans sa forme, tandis que Peninsula, hein, par son aspect série B, m'avait beaucoup plus convaincu. Colony est pour moi le parfait mix des deux, hein, et se permet en plus d'être un des plus malins films de zombies, vu depuis le légendaire zombie de George Romero. Alors, commentaire sur notre époque ultra connectée, en plus d'être un divertissement ultra spectaculaire, Colony met en scène une infection originale hein, qui met en scène des zombies hein, tels des fourmis, se partageant le même cerveau lignifiant et destructeur, à la métaphore claire sur les rapports humains modernes. Entre Piège de Cristal et The Last of Us, c'est un parfait divertissement intelligent.
Exo, c'est un vœu. Tu peux en faire qu'un seul. Je souhaite que Nikki Freeman m'aime plus que tout au monde.
Je t'aime tellement. Il n'est qu'une branche de saule pour avoir pu faire naître un tel amour.
Je t'aime. Je t'aime.
Arrête !
Je t'aime. Je t'aime.
Et nous parlons aussi d'obsession.
Alors nous ne sommes pas dans l'obsession de Brian De Palma et le réalisateur Barker n'est pas Clive, mais Curry. Hein. Il n'empêche que la magie, si on peut dire, opère grandement ici, hein, une nouvelle fois, car l'obsession de Curry Barker hein, est bien la claque que le succès populaire mérité annonce. Alors non pas que son pitch, hein, qui n'aurait pas dépareillé dans un épisode des Contes de la Crypte, hein, soit particulièrement original, mais son traitement change tout. Bear, hein, un jeune homme introverti, met la main sur un objet magique capable d'exaucer n'importe quel souhait. Alors ça tombe bien, car Nikki, sa collègue de boulot, est littéralement l'amour de sa vie, mais continue de le considérer comme un simple ami. Alors ce petit coup de pouce hein, pourrait l'aider à déclarer sa flamme hein, et vivre une relation forcément merveilleuse, sauf qu'il y a deux problèmes. Bah, le premier, c'est que le sortilège marche vraiment et que dans ce genre d'histoire, bah, la personne ensorcelée n'est pas consentante. Et Curry Barker arrive à nous retranscrire l'horreur absolue alors que Nikki, insoumise, hein, lutte intérieurement pour se sortir d'un corps qui l'emprisonne. L'obsession hein, de l'un devient l'obsession d'une autre à tout faire pour que le faux couple soit heureux et tout dégénère sans rien céder à l'étude de caractère de Bear, hein, grâce à une écriture vraiment maîtrisée. Barker, hein, use à merveille, hein, du silence et a travaillé le son qui opère des ruptures de ton franchement saisissantes. Il a su s'approprier, hein, un thème relativement banal pour parler d'un fait de société actuel brûlant, prouvant l'extrême pertinence des métaphores du fantastique. C'est brillant et c'est à voir absolument sur grand écran.
Et oui, et ça tombe bien, c'est encore dans les salles.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine. Toi, Guillaume, tu vas nous parler d'un film qu'on attendait.
Eh ben oui, de notre père à tous, Steven Spielberg. Ce sera Disclosure Day.
Et ce sera sans doute l'occasion de jouer avec un blind test de sa filmographie. À la semaine prochaine.